Alors, ce matin, je voulais vous parler d'un thème particulier, en fait. Et voilà le titre de la prédication de ce matin. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire. Oui? Ça veut dire quoi? Alors, si vous avez suivi un peu la louange ce matin, on l'a dit plusieurs fois. Non. Alors, repentez-vous. Voilà, repentez-vous. Alors, ce matin, je vous invite à regarder un verset de la parole de Dieu. Un verset de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est assez gros. Voilà, ce verset de la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit à ses auditeurs qui l'écoutent, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, ce sont des paroles extrêmement puissantes. Et ce verset, à vrai dire, il n'est pas facile à aborder parce que d'une part, il touche à la repentance. Et il faut bien dire que lorsque l'on évoque le mot repentance aujourd'hui, à notre époque, c'est pas un terme qui est très tendance. Et il n'est pas facile aussi parce que lorsqu'on parle de repentance, de besoin de repentance, c'est qu'il y a faute et donc péché. Et la pire encore, personne, ou en tout cas pas grand monde, veut entendre parler de péché parce que il signifie considérer le sien, considérer son propre péché. Alors, je vous invite ce matin modestement à regarder ce passage autour de deux axes. Le contexte de ces paroles qui sont données par l'apôtre Pierre, d'une part, et d'autre part, ce que ce passage veut nous dire précisément. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez, j'espère que vous en avez une. Sinon, ça serait bien que vous en ayez une, mais si vous n'en avez pas, bon, vous pourrez suivre, je pense, les différents versets que nous allons aborder dans le Nouveau Testament. Nous allons regarder dans le livre des Actes aux Apôtres, au chapitre 2, puisque ce verset se trouve en Actes 2, 38. Donc, je vous invite simplement à trouver ce verset en Actes 2, verset 38. Ces paroles se situent au début du livre des Actes, lors des événements de la Pentecôte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Simon nous a partagé quelques éléments la semaine dernière, mais simplement le Saint-Esprit est répandu sur les croyants qui vont se mettre à parler dans d'autres langues des merveilles de Dieu. Les Israélites présents, venus des pays alentours pour la fête de Pentecôte, les entendent parler chacun dans leur propre langue, si bien qu'ils sont perplexes face à ce qu'ils entendent. Et Pierre, un des 12 apôtres de Jésus, prend la parole et dans un discours puissant, va faire prendre conscience à ses auditeurs que l'effusion du Saint-Esprit, comme ils l'entendent et comme ils le voient, est la convergence de deux choses. D'une part, la promesse de Dieu d'envoyer son Esprit Saint sur ses enfants. Première chose. Et la deuxième chose, l'accomplissement de cette promesse par Jésus-Christ. Et c'est tout le discours de Pierre. Et Pierre, il va d'abord s'attacher à démontrer que la venue du Saint-Esprit a été promise par Dieu bien des siècles auparavant à son peuple. Et pour cela, il va rappeler les paroles du prophète Joël, un prophète en Israël qui a vécu 800 ans avant ces événements de la Pentecôte. Et il rappelle, Pierre, lors de son discours, les paroles du prophète Joël. Le prophète Joël avait prophétisé ainsi, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Voici ce que Pierre donne ici à ses auditeurs pour expliquer la venue du Saint-Esprit. Et il explique que ce merveilleux pouvoir de s'exprimer dans d'autres langues est le signe extérieur de l'accomplissement de la prophétie de Joël, selon laquelle Dieu doit répandre son Esprit Saint sur tout son peuple, et nous sommes aujourd'hui au temps de la réalisation de cette promesse. Dans Joël, cette promesse est associée au dernier jour. Eh bien, Pierre affirme en quelque sorte que cet événement est maintenant arrivé dans l'histoire. Et Pierre rattache ensuite cette venue du Saint-Esprit à autre chose. Dans tout son discours, il dit que la venue du Saint-Esprit, il la rattache à l'accomplissement du ministère de Jésus, à sa mort, à sa résurrection et à son exaltation, c'est-à-dire son élévation. Pierre déclare des versets 22 à 36 qu'à la suite de son œuvre achevée, ce Jésus de Nazareth qu'ils ont cloué au bois et ressuscité des morts, que Dieu l'a élevé et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Pierre dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. S'il se produit maintenant, c'est que Jésus a achevé la mission qui lui était assignée. Il fallait que l'œuvre rédemptrice de Christ soit accomplie, qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il soit élevé à la droite de Dieu afin que le Saint-Esprit vienne. Jésus avait d'ailleurs annoncé à ses disciples peu de temps avant qu'il était avantageux pour eux qu'il s'en aille. Il disait « parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Cette venue du Saint-Esprit est donc fondée sur la convergence de deux choses qui se produisent à ce moment-là, qui se réunissent à ce moment-là. La promesse faite par Dieu de l'envoi de son Saint-Esprit sur ceux qui croient et l'accomplissement de cette promesse en la personne de Jésus-Christ. Alors Pierre va terminer son discours à la Pentecôte par ces quelques mots. Il dit que toute la maison d'Israël, au verset 36, vous pouvez suivre, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait roi et sauveur Jésus. Et à ces paroles, ses auditeurs, à la fois les Hébreux et les Hellénistes qui étaient venus pour la fête de Pentecôte, eurent le cœur vivement touché. Alors le terme grec pour « vivement touché », c'est qu'ils étaient remplis d'une profonde tristesse. Il faut garder ça à l'esprit. Face à la réalité de leur péché, alors ils demandent à Pierre et aux autres apôtres qui sont là, « Frères, que ferons-nous ? » En d'autres termes, « Que devons-nous faire ? » Que doivent-ils faire ? Mais la réponse de Pierre, elle est sans équivoque. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si l'apôtre Pierre donne ces paroles, cette réponse à ce moment-là, c'est que suite à la mort et à la résurrection de Jésus, Dieu l'a élevé pour nous donner justement par lui la repentance et le pardon des péchés. En effet, il est dit que Dieu a élevé Jésus par sa droite comme Seigneur et Sauveur, justement pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Par Christ, donc, nous avons accès au pardon de Dieu. Et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte en étant le témoignage certain. C'est donc la repentance, la réponse au besoin de l'humanité par Jésus-Christ. Le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Et à ce titre, le besoin de repentance fait fondamentalement partie de la prédication de l'Évangile. Et à ce titre, si vous lisez les Évangiles, vous verrez que dès le début, c'est une affirmation. Nous apprenons que l'enseignement de Jean-Baptiste, je vous rappelle, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est celui qui préparait le chemin du Seigneur, eh bien son enseignement est précisément basé sur le besoin de repentance. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, nous dit Marc 1, verset 4. Jésus également, dès le début de son ministère, commence par cet impératif. Les premières paroles publiques de Jésus, qui nous sont données dans la parole de Dieu en Marc 1, verset 15, c'est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Paul, d'ailleurs, dans ses voyages missionnaires, ne fera pas autre chose. Il annoncera dans la même veine le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Lorsqu'il se trouve auprès des Athéniens, connaissez, vous rappelez certainement de cette prédication puissante auprès des Athéniens, il dira « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet appel à la repentance est pour aujourd'hui, parce qu'un jour Jésus reviendra pour juger le monde. Et le temps donc, le temps qui nous est donné aujourd'hui, c'est le temps de la grâce de Dieu qui est ouvert pour l'humanité. Pendant ce temps, nous avons cet accès libre par Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes, pour celui qui croit. Alors qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est l'expression grecque là que je viens de vous montrer, hein, metanoeo, mais bon, à part ça, c'est bien beau, mais c'est traduit souvent par vous, dans vos Bibles d'ailleurs, par « repentez-vous » ou parfois « changer de vie » ou « de comportement » ou « de mentalité » selon la version que vous avez. Le mot « repentance » en lui-même signifie « changer son esprit », »,« changer de mentalité ». Elle est caractérisée donc par d'abord une souffrance intérieure, une profonde tristesse qui est produite par la conviction de péché et qui nous entraîne vers un profond désir de changement. La repentance implique un changement radical d'esprit et d'attitude qui nous fait reconnaître nos fautes et nous engage à les abandonner. La repentance est donc nécessairement une prise de conscience personnelle de son état de péché. Se repentir, c'est se reconnaître pécheur et le confesser devant Dieu. Sans une telle confession, il n'y a point de vraie repentance. En ce sens, la repentance produit quelque chose de concret. La reconnaissance de nos fautes qui se traduit par une nécessité de changer de vie. La repentance, dans la parole de Dieu, n'est pas une option. Elle est primordiale. Alors comprenez-moi bien, la foi en Christ est clairement le chemin du salut et du pardon de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne prête aucune confusion. Mais il ne faut pas négliger la repentance justement dans notre attachement au Seigneur. La foi implique une repentance sincère. Croire en Jésus, c'est croire dans la réalité du pardon de Dieu pour ma vie. Je ne peux pas dire, je crois en Jésus, bon c'est bon, et je rentre chez moi comme si de rien n'était. Croire en Christ, c'est croire dans la réalité du pardon de Dieu. Et Jésus le dit lui-même, je suis venu sauver non pas des justes, mais des pécheurs qui se reconnaissent comme tels. Celui qui se reconnaît comme pécheur, place sa confiance en Christ parce qu'il sait qu'il est tout puissant pour lui pardonner ses péchés. Comme le dira un théologien bien connu, vous connaissez certainement John Stott, qui était un théologien anglican, il dit le tout premier pas de la conversion, c'est la repentance, par laquelle nous renonçons au péché. Car repentance et foi sont à ce point inséparables que nous ne pouvons pas suivre le Christ sans renoncer au péché. Nous ne pouvons pas suivre le Christ sans renoncer au péché. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle est nécessairement accompagnée d'une vraie repentance. Et c'est pour ça que la repentance est si importante. Je voudrais attirer votre attention sur l'action du Saint-Esprit. C'est assez paradoxal, mais c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre, qui vient attirer la personne à Dieu et qui la conduit à la foi en Dieu. D'une part, il y a action du Saint-Esprit pour considérer la réalité de mon péché. Et d'autre part, il y a ma réponse personnelle devant la réalité de mon péché. En effet, Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre. C'est l'œuvre de conviction opérée par le Saint-Esprit qui fait prendre conscience du péché et du besoin de Dieu et qui nous conduit vers la repentance. Et moi, dans tout ça, quelle est ma réponse alors devant cette conviction de péché? Alors pourquoi autant insister sur ce besoin de repentance? Alors nous avons commencé à en parler. L'apôtre Pierre le dit dans le verset. En acte 2, verset 38, quand Pierre dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Pour le pardon de vos péchés ». La repentance nous fait entrer dans le pardon de Dieu. Et s'il y a besoin de repentance, c'est qu'il y a faute. La parole de Dieu nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, soient effacés. » Ou encore, nous avons dans un autre passage, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » La Bible enseigne que le péché est la cause première du problème humain. Alors ça ne plaît à personne, mais c'est la réalité des faits. Le péché est la cause première du problème humain. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi ? Parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Le péché est une maladie profonde et mortelle qui a corrompu le cœur et contaminé toute la race humaine. La conséquence la plus tragique du péché est la mort dans son sens le plus profond, mort spirituelle et séparation d'avec Dieu, dont la mort physique que nous subissons aujourd'hui est le signe et le rappel tragique. C'est pourquoi la Bible déclare que sans Christ, l'homme est mort par ses fautes et par ses péchés. Le péché est le vrai problème de l'humanité. Et nous avons cette déclaration forte de la parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors comment m'en sortir? Le seul vrai remède, c'est le salut offert par Jésus-Christ. Le don d'une vie nouvelle à tous ceux qui sont spirituellement morts et séparés d'avec Dieu à cause de leur faute. Une vie nouvelle rendue possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Et là, nous pouvons nous réjouir. Quand nous avons vu ce constat de la réalité de notre séparation avec Dieu, nous pouvons que nous réjouir et mesurer l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. En mourant à la croix, Christ a porté mes péchés et il a porté vos péchés. Il est dit que Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. En disant lui-même en son corps, cela indique que Jésus, lui qui n'a point de péché, lui qui était sans tache, s'est identifié au péché des hommes en se faisant lui-même péché, il devint péché. Il devint péché en portant les nôtres sur la croix. Et en conséquence, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné en rançon pour tous. Dieu refusait de nous imputer nos péchés, comme le dira Paul. C'est-à-dire que dans son amour pour nous, Dieu ne voulait pas nous en tenir responsables. Il ne voulait pas donc que le châtiment s'abatte sur nous. Portant notre péché, Jésus endura à notre place la séparation d'avec Dieu que nous méritions. Et dans quel but Jésus a-t-il fait cela? Celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est-à-dire que Dieu a voulu que nous soyons reconnus justes par Jésus-Christ. Le péché nous séparait de Dieu. Aussi, Jésus s'est livré à la croix, une fois pour toutes, un sacrifice total, parfait, unique, suffisant, qui couvre les péchés afin de nous ramener à Dieu. Par le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection et son élévation, comme le dira Pierre, Dieu nous donne la repentance et le pardon de nos fautes. C'est donc en venant à Christ par la foi que nous recevons le pardon complet de tous nos péchés. Le fossé qui nous séparait de Dieu est comblé. Et comme le dira Paul, il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Seigneur. Alléluia ! Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est dans le Christ Seigneur. Mais quand on parle de repentance, on parle de joie. Bien sûr qu'on a une tristesse profonde devant la réalité de notre péché. Mais le Seigneur Jésus, il nous invite pas à y rester. Parce que ce qu'il a accompli à la croix, c'est pour nous en délivrer. Nous avons en lui une vie nouvelle. La parole nous dit que c'est une vie débarrassée du poids du péché pour celui qui se reconnaît pécheur et qui place sa confiance en Jésus. Se débarrasser du poids du péché, ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Jésus-Christ l'a accompli à la croix pour que nous en soyons débarrassés une fois pour toutes. Alors pour celui qui accepte Jésus dans sa vie, qui se reconnaît pécheur, le Seigneur lui donne le pardon de ses fautes. C'est-à-dire qu'il n'est plus sous l'autorité du péché, mais désormais il est placé sous l'autorité de Christ. Alors comment ce changement radical de vie est-il rendu effectif? Comment il devient concret dans nos vies? Eh bien, l'apôtre Pierre le dit aussi dans notre verset. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et » il faudrait l'apprendre par cœur hein, « et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance entraîne une réorientation radicale de toute la vie manifestée dans la conversion. Et c'est toute l'œuvre de l'Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la vie nouvelle venant de Dieu. À l'image donc de Christ, qui est mort et ressuscité, le croyant passe par l'expérience de la mort et de la résurrection grâce au pouvoir de l'Esprit vivifiant. Pour dire simplement, il meurt à son ancienne nature pour naître en nouveauté de vie. Croire en Christ, c'est recevoir la vie nouvelle par l'Esprit lui-même, devenir une nouvelle création. En quelque sorte, c'est une nouvelle naissance. Et cela ne vient pas de l'homme, mais cela vient de Dieu. Et encore une fois, c'est de l'Esprit que l'on est de nouveau. C'est l'Esprit qui vient convaincre, et c'est l'Esprit qui vient faire de nous de nouvelles créatures. Et c'est là le rôle fondamental de l'Esprit, la fonction vivifiante de l'Esprit-Saint. Elle est étroitement attachée dans la parole de Dieu à deux termes qui sont souvent associés et qui est le terme de bain et de nouvelle naissance ou régénération. Lorsque un homme, Nicodème, interrogera Jésus sur cette nouvelle naissance qu'il ne comprend pas trop, Jésus lui répondra en lui disant « en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le règne de Dieu. » L'association d'eau et d'esprit indique l'œuvre de régénération opérée par le Saint-Esprit. L'expression « naît d'eau » fait référence à la purification intérieure qu'opère le Saint-Esprit. Cette métaphore utilisée par Jésus éclaire la vérité que la conversion implique. Un nouveau commencement qui est radical, dans lequel Dieu lui-même régénère une personne au moyen du Saint-Esprit. Donc l'Esprit transforme par la régénération et le renouveau pour qu'une personne commence à refléter la nature de Dieu dans sa vie. Et cette purification et cette nouvelle naissance se traduit concrètement dans la vie de la personne par la présence de l'Esprit de Dieu qui habite désormais en celui qui a accepté Jésus dans sa vie. C'est Dieu qui vient envoyer son Esprit. Il est dit, je répandrai sur vous une eau pure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, nous dit la parole de Dieu. Mon esprit en vous. Le baptême d'eau, qui est mentionné d'ailleurs dans notre passage, vient symboliser ces deux bénéfices de la foi. La purification des péchés et la vie nouvelle qui vient de Dieu par le don du Saint-Esprit. Celui qui se repent et se tourne vers Dieu manifeste son changement de vie par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est la manifestation visible de ce que le Saint-Esprit a opéré dans nos vies. Ce que nous devenons alors est surprenant, parce que ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que nous devenons aux yeux de Dieu ? Eh bien, l'œuvre opérée par l'Esprit Saint dans la vie d'une personne lui confère un titre. Quel titre ? Oui ? En d'autres termes, enfant de Dieu, enfant adoptif de Dieu. Enfant de Dieu, cette filiation, c'est désormais le statut spirituel du croyant. Nous devenons enfants de Dieu, non à la naissance physique, mais en naissant de nouveau dans le Saint-Esprit. Et comme dans toute nouvelle naissance humaine normale, où le nouveau-né entre immédiatement dans la famille qui lui a donné naissance, eh bien c'est la même chose pour celui qui naît de nouveau spirituellement. Il entre immédiatement dans la famille de Dieu par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit d'ailleurs, « Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » C'est une promesse. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes même héritiers et co-héritiers de Christ. Donc Christ est le premier d'entre tous. On est héritiers et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous imaginez la puissance du sacrifice de Jésus à la croix ? Le pardon de nos fautes. Une nouvelle naissance, une nouveauté de vie d'ailleurs qui ne prendra pas de fin, qui ne connaîtra pas de fin. Et en plus, Dieu, il ne s'arrête pas là. Il fait de nous des héritiers. Et si vous vous rappelez que Jésus a été élevé et qu'il règne à la droite de Dieu, c'est-à-dire que Dieu fait de nous partie prenante de son règne, des acteurs vivants de son règne, mais il nous fait prendre part à la royauté de Christ. Tous les hommes ont été, et les femmes bien sûr, tous les hommes dans le sens humain, tous les humains ont été créés par Dieu. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Seuls ceux qui reçoivent Jésus et croient en son nom reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Cela signifie bien que celui qui naît de nouveau, lui-même, celui qui naît, a cette possibilité d'entrer, d'être incorporé dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu par le Saint-Esprit. Et en tant que tel, comme le dit Paul, il est enfant de Dieu et co-héritier de Christ. Il possède donc tous les privilèges conférés à une personne qui fait partie d'une famille de manière officielle. Si vous réfléchissez, dans le cadre de la foi, c'est la même chose. Il possède la vie éternelle en Dieu par Christ, rendue effective par l'action de l'Esprit en lui. Il possède aussi toutes les responsabilités d'une personne adoptée dans la famille de Dieu. Tout comme dans une famille naturelle où le nouvel enfant, par exemple, devient membre à part entière de cette famille, comme les autres membres, eh bien le croyant, lui aussi, il devient membre de la famille de Dieu avec les autres croyants et il a, comme les autres, les mêmes privilèges et les mêmes responsabilités, le tout formant l'Église. Et c'est pour cela que la Pentecôte marque la naissance de l'Église. Par l'Esprit de Dieu, les croyants deviennent membres les uns des autres. Alors la vie du croyant, la vie de la personne qui donne, la vie de la personne qui est transformée, va alors s'orienter sous l'autorité de Dieu et dans le sens de Dieu. Elle n'est plus sous l'autorité du péché, mais elle est placée sous l'autorité de Christ, fait roi, et de son règne. L'être tout entier va alors être appelé à grandir selon Dieu. Après toute naissance, vient le temps de la croissance. Et vous savez que le temps de la croissance dans la parole de Dieu, ça a un terme. Le terme de la croissance dans la parole de Dieu, c'est quel terme? Quel terme on utilise pour parler de croissance? La sanctification. Je n'aborderai pas ce point maintenant, mais le temps de la sanctification est nécessaire et durera toute la vie de la personne qui se tourne vers le Seigneur. Et là encore, le Saint-Esprit a un rôle primordial. Ce qui s'est passé intérieurement va avoir des effets concrets sur sa vie extérieure. Sa manière de vivre, de se comporter, d'agir, ses priorités sans trop changer. Il n'est pas différent d'un point de vue physiologique, mais il est radicalement différent d'un point de vue spirituel, et cela change tout et oriente sa vie de manière complètement différente. Les décisions d'une personne qui s'attache au Seigneur et ses actions se trouvent transformées pour porter du vrai fruit, du fruit de justice, du fruit de l'esprit, à mesure qu'il passe du temps avec Dieu. Et là encore, le Saint-Esprit nous y aide. Encore une fois, le rôle du Saint-Esprit sera évident dans le sens où sa présence dans la personne lui fera porter du fruit venant de Dieu et venant plus de sa nature humaine, venant de Dieu directement. Et Paul nous les énumère d'ailleurs, ces fruits qui viennent de l'Esprit, qui viennent de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ce que je manque. Ouais. Heureusement que Dieu nous fait grâce de nous accorder ces fruits de l'Esprit. Je crois que tous, on peut dire que on a vraiment besoin que le Seigneur nous remplisse de l'amour, de sa joie, de sa paix, de sa patience, de sa bonté, de sa bienveillance, qu'il nous remplisse de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Combien on en manque. On n'a pas trop de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies pour qu'il nous transforme à la manière de Dieu. C'est donc comme pour un enfant dans une famille, son caractère se construit, se façonne, il se remplit de différentes caractéristiques tout le long de sa vie. Eh bien, il en est de même de celui qui naît de nouveau. Mais à la différence de la vie de quelqu'un qui ne croit pas, cette vie est fondée dans l'amour et la vérité. Fondée dans l'amour et la vérité. C'est-à-dire façonnée selon le caractère de Dieu pour porter du fruit pour sa gloire. La repentance, donc, nous conduit sur un chemin, sur le chemin du salut qui va nous permettre de porter du fruit. Regardez ce verset. Alors, ce verset, on le connaît pas tous, honnêtement. Honnêtement, ce verset, je l'ai trouvé extrêmement puissant. C'est Paul qui écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit « La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. » La tristesse du monde, c'est-à-dire celle qui est sans repentance, elle produit la mort. Et je trouve ces paroles extrêmement puissantes et importantes. Parce qu'elles nous révèlent finalement deux situations, deux chemins. Celui qui se repent, dont la repentance le conduit sur le chemin du salut, et qu'il ne regrettera pas. Et l'autre sans repentance, qui mène à rien d'autre que la mort. C'est un verset puissant, je trouve. Ce qui découle de ce verset est totalement différent d'un aspect à l'autre. D'un côté, une œuvre de mort, qui ne produit donc rien de bon. Et de l'autre côté, une œuvre de vie, qui porte du fruit, qu'on ne regrette pas. Ça annonce des bénédictions. Dans le dernier cas, non seulement nous sommes personnellement au bénéfice de cette réalité, mais encore nos décisions et nos actions s'en trouvent changées, nous devenons participants à l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Mais une personne qui donne sa vie au Seigneur, elle va porter du fruit selon Dieu, et cela va avoir un impact dans sa vie quotidienne, mais aussi autour d'elle. Parce que ses actes, ses actions, ses dispositions vont être changées par Dieu. Et donc, autour de lui, tout va s'en trouver changé. Cela permet d'avoir des bénédictions autour de nous. Alors, suite au discours de Pierre, eh bien, il nous est dit que les gens qui étaient là, qui écoutaient, les Hébreux, les Hellénistes qui étaient venus pour la fête de la Pâque, les Hellénistes et les Juifs étrangers qui vivaient dans la diaspora, il nous est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. En fait, ils étaient remplis de tristesse. Ils étaient remplis de tristesse. Ils étaient remplis de tristesse face à la réalité du discours de Pierre, de ce qu'il venait annoncer. Et Pierre va leur faire cet appel, parce qu'il le voit bien qu'ils sont tristes. Il va leur dire, au verset suivant, « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération. » Ce n'est pas des paroles qui les caressent dans le sens du poil. « Recevez le salut », ça veut dire « Repentez-vous maintenant. » Et vous recevrez le salut. Séparez-vous maintenant de cette génération perverse. Je crois que c'est écrit. Il nous est dit que suite aux paroles de Pierre, beaucoup crurent. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Suite aux paroles de Pierre. Et moi, aujourd'hui, dans tout ça, eh bien, ce discours de Pierre, ces paroles de repentance, elles sont aussi pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, Pierre, il va dire au verset suivant, il va faire cette annonce qui est prophétique. Il dit à ces personnes qui sont là, cette promesse de don de l'Esprit, comme vous le voyez et l'entendez aujourd'hui, elle est pour vous. Elle est aussi pour vos enfants. Et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les au loin, c'est peut-être nous aujourd'hui. C'est peut-être vous aujourd'hui. Cette promesse du salut en Jésus-Christ est pour nous aujourd'hui, car nous sommes encore dans ce temps de la grâce. En effet, la parole de Dieu nous dit et affirme que le Seigneur Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne tarde pas pour revenir, mais il use de patience. Parce que ce temps, il nous est donné pour que les hommes puissent se reconnaître pécheurs, arrivent à la repentance et qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur Tout-Puissant pour leur pardonner leurs péchés. Se mettre en règle avec Dieu. Ce temps, c'est le temps de la patience de Dieu. Alors pour terminer, je dirais, puisqu'il est temps de terminer, que tous ceux et toutes celles qui vivent sous le poids du péché, qui se reconnaissent pécheurs et souhaitent en être débarrassés, pour vivre une vie nouvelle qui porte du fruit à la gloire de Dieu, la parole de Dieu nous dit « Ne tarde pas, repens-toi et tu recevras le salut en Jésus-Christ aujourd'hui. » Et ce matin, je vais vous dire avec force et conviction que Dieu a formé pour l'homme une promesse unique. Dieu, par amour pour nous, a voulu que tout être humain qui se reconnaît pécheur soit sauvé du péché par la foi en Jésus-Christ son Fils. Nous n'avons pas autour de nous une telle marque d'amour. Aucune personne, aucune organisation, aucun gouvernement, aucun État, passé, présent et à venir, n'a formé pour chaque individu une telle promesse. Dieu l'a accomplie par son Fils Jésus-Christ. Eh bien, cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous, je l'ai dit, elle est pour moi, elle est pour toi. Elle a été formée par Dieu, accomplie par Christ à la croix et rendue effective par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et il souhaite que le plus grand nombre en soit au bénéfice aujourd'hui. Alors, si vous êtes interpellé dans votre cœur par l'appel de Dieu, comme les Israélites qui étaient présents ce jour-là, n'endurcissez pas vos cœurs. Que la tristesse du péché ne reste pas comme une tristesse selon le monde, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'elle ne reste pas comme une tristesse selon le monde. Mais que la tristesse produite par le péché vous conduise à la repentance, qui vous conduira au salut en Jésus-Christ. Amen.